Très bon réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Union européenne franchit une étape décisive pour encadrer le droit d'auteur sur Internet. Ses institutions se sont mises d'accord hier soir sur un texte, malgré la pression de part et d'autre. Il s'agit de rééquilibrer ce droit d'auteur au profit des auteurs. Justement, les détails dans un instant.
L'exécutif dévoile sa réforme de la fonction publique. Il veut faciliter le recours aux contractuels et les reconversions de fonctionnaires dans le privé. Hier, 7 syndicats ont refusé de rester à une réunion de présentation. Le représentant de Force ouvrière nous dira pourquoi.
Nous reviendrons aussi sur la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Dans son ancienne famille, les Républicains, certains se frottent les mains et s'expliquent.
Airbus annonce la fin de la production de son gros porteur A380 d'ici 2021. La faute à un manque de commandes. Retour sur cette courte saga avec notre spécialiste aéronautique.
Et puis nous irons en Chine où des familles ouïghours, minorités musulmanes, lancent des appels sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de leurs proches disparus. Pékin s'inquiète. Dans un quart d'heure après ce journal, Frédéric Saïs vous expliquera dans son billet politique pourquoi les élus sont à la fois le problème et la solution du grand débat national. Le dossier a donné lieu jusqu'au bout à un lobbying acharné des géants du numérique d'un côté et des créateurs, médias et éditeurs de l'autre. Après des mois de discussions acharnées, les Européens ont obtenu un accord sur la réforme européenne du droit d'auteur. Réunis hier soir en trilogue, la Commission, le Parlement et le Conseil européen se sont mis au diapason. Il s'agit de fixer enfin des règles modernes en matière de droit d'auteur adaptées à l'ère numérique. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Face aux grandes plateformes de diffusion, les auteurs seront mieux protégés, Cécile.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'a déclaré Andrus Ansip, le responsable numérique auprès de l'Union européenne. Ce nouveau droit de la propriété intellectuelle en Europe imposera une rémunération plus juste pour les créateurs, mais avec des droits garantis pour les usagers d'Internet et des règles plus claires pour les plateformes en ligne. Une manière finalement de répondre au lobbying croisé qui, depuis des mois, oppose les GAFA, c'est-à-dire les grandes plateformes, Google, Amazon, Facebook, et les défenseurs des libertés d'Internet, face aux créateurs et aux éditeurs de presse. Et alors, avec ce nouveau texte, ce sont finalement les auteurs et les éditeurs de presse qui l'emportent. Car dorénavant, les plateformes seront responsables de la rémunération des créateurs. La réforme impose d'abord un droit voisin. C'est le fameux article 11 qui donnera la possibilité aux médias de réclamer le paiement d'une redevance aux plateformes qui agrègent et diffusent des extraits d'articles, comme le fameux Google Actualité. L'autre nouveauté, c'est que les plateformes comme YouTube, Facebook ou Dailymotion auront la responsabilité de contrôler ces contenus afin que les auteurs ne soient pas pillés. En clair, si vous faites une vidéo sur YouTube en utilisant par exemple la musique d'un autre, eh bien la plateforme sera tenue de filtrer, voire de bloquer votre vidéo si vous ou la plateforme n'avez pas payé l'auteur en question. D'où le tollé du côté des GAFA. Depuis des mois, Google, via sa plateforme YouTube, a organisé une campagne anti-directive dénonçant un texte qui nuit à la liberté de création, mais sans préciser l'ampleur des revenus que l'entreprise engrange grâce à ce business model. De nombreux défenseurs des internautes ont aussi pris parti contre ce nouveau droit d'auteur qui, selon eux, sape l'innovation. Et surtout, ils craignent que seules les grandes plateformes puissent mettre en œuvre les dispositifs technologiques et financiers prévus par ces nouvelles règles. D'où l'accord conclu et validé cette nuit en trilogue. Pour protéger les petites start-up, les plateformes en ligne de moins de 3 ans d'âge, réalisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et comptant moins de 5 millions d'usagers mensuels, ne seront pas soumises à ce nouveau droit d'auteur. De même, les marques à but non lucratif comme Wikipédia pourront continuer d'utiliser des données librement.
Il y a eu donc un accord, Cécile, hier soir à l'Union européenne, qui s'en félicite d'ailleurs, puisque le temps presse, il fallait trouver cet accord avant les élections européennes de mai prochain.
Ah oui, alors selon une source bien informée auprès de la Commission, l'adoption de cet accord informel n'est plus finalement qu'une formalité, sauf énorme coup de théâtre politique. Le texte a été modifié à la virgule près et les modalités d'application, c'est-à-dire les dates butoirs et la période de transition décidées à l'unanimité. Car sachez-le, après l'adoption au Parlement européen, eh bien, les États membres devront ensuite adapter ce nouveau droit dans chacune de leurs législations. De son côté, Google a d'ores et déjà prévenu qu'il risquait de fermer carrément Google Actualité en Europe.
Merci Cécile de Kervas-Doué. Au chapitre des décisions européennes prises hier également, les institutions ont acté la fin de la pêche électrique dans l'Union européenne à partir du 1er juillet 2021. Les États membres ont aussi la possibilité d'interdire ou de restreindre immédiatement cette pratique dans leurs eaux territoriales. À peine présenté et déjà décrié, 7 des 9 syndicats de fonctionnaires ont quitté hier la réunion sur la réforme de la fonction publique. Elle était animée cette réunion par le secrétaire d'État Olivier Dussopt en charge du dossier, mais il n'a semble-t-il pas convaincu. Les organisations syndicales expliquent que le projet ne tient pas compte de leurs propositions faites depuis le début des négociations. Le calcul des rémunérations des fonctionnaires ne sera pas modifié. Le gouvernement maintient son objectif, supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Et puis il va recourir, dit-il, largement aux contrats privés, aux contractuels. Christian Grolier, secrétaire général de Force ouvrière fonction publique, est l'un de ceux qui a quitté la table hier. Une impression de déjà-vu, dit-il.
La suppression du CHSCT, la fin du rôle des commissions administratives paritaires, le recours à l'emploi contractuel, c'est exactement ce qui s'est passé il y a un an. Donc ça a été un an de discussions stériles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur la même déclinaison que la loi travail. On a mis le contrat de chantier dans la loi travail, là c'est le contrat de mission. Tout est pareil, on réduit les instances, on réduit le rôle des représentants du personnel. Voilà, donc c'est moins de syndicats, moins de protection pour les travailleurs. Le prochain Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, où on peut poser des amendements, la date butoir c'est le 22 février. Qui peut croire un seul instant qu'on va pouvoir poser des amendements le 22 février ? On va pas nous faire croire pendant un an qu'on nous a pas entendu, et que là, en une semaine, on va pouvoir poser des amendements pour modifier la loi. Donc le gouvernement manque, il faut dire les choses clairement.
Cette réforme de la fonction publique sera présentée ce matin aux journalistes lors d'une conférence de presse. Autre point de tension pour le gouvernement, la réforme de l'assurance chômage cette fois. Là aussi, les syndicats ont élevé la voix, s'en prenant non pas au gouvernement, mais au patronat. Les négociations reprennent aujourd'hui à propos de cette assurance chômage. Et le principal sujet de discorde, Catherine Pétillon, est la lutte contre la précarité.
Les partenaires sociaux doivent définir de nouvelles règles pour responsabiliser les employeurs. La lettre de cadrage ne reprend donc pas formellement la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, à savoir l'instauration d'un bonus-malus, un dispositif censé restreindre le recours abusif au CDD en modulant les cotisations sociales des entreprises en fonction de leur comportement en la matière. Le patronat y est totalement opposé. C'est d'ailleurs une sortie récente d'Emmanuel Macron sur le sujet qu'il avait fait quitter un temps les négociations. Aujourd'hui, il devra néanmoins mettre des propositions sur la table. Son idée, c'est de convaincre les syndicats qu'il y a d'autres pistes d'action. La formation, des nouveaux types de contrats comme le CDI mobilité ou le CDI intérimaire. Pas question pour une partie des syndicats qui font du bonus-malus une condition. Reste une question stratégique. Quels risques les partenaires sociaux prendraient-ils à ne pas tomber d'accord ? Car dans ce cas, c'est l'exécutif qui reprendrait la main et imposerait ses choix par décret. Pour le patronat, cela peut avoir un intérêt, faire porter aux politiques la responsabilité d'un dispositif qu'ils refusent et miser aussi sur le fait que le bonus-malus ne fait pas consensus entre Matignon et l'Élysée et au sein même du ministère du Travail. Pour les syndicats, le problème est autre. Perdre la main, ce serait ne plus pouvoir défendre les droits des chômeurs. Or, c'est l'autre gros sujet de négociation. Où et comment faire des économies demandées par le gouvernement entre 3 et 3,9 milliards d'euros sur 3 ans. Parmi les pistes évoquées, les règles de cumul emploi et indemnisation ou encore les conditions d'accès à l'indemnisation.
Le chômage encore qui recule en France, moins 0,3% au quatrième trimestre 2018, c'est ce qu'annonce l'INSEE ce matin. Il concerne ainsi 8,8% de la population active en France entière, hors Mayotte, et atteint son plus bas niveau depuis l'année 2009. L'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, la mesure était sans doute la plus médiatisée du projet de loi pour une école de la confiance. Eh bien, elle a été adoptée hier soir par les députés en première lecture. L'Assemblée s'est aussi accordée sur le principe d'une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Voilà pour les projets de loi en cours sur des questions sensibles. Il peut y avoir alors un recours devant le Conseil constitutionnel. Nous avons appris hier les trois noms des nouveaux sages, renouvelés par 3 tous les 3 ans, sont donc nommés. Le sénateur du Cher, François Pillet, l'ancien ministre Jacques Mézard, et puis, c'est la surprise, Alain Juppé, ancien Premier ministre. À 73 ans, c'est avec une profonde émotion qu'il dit renoncer à la mairie de Bordeaux et accepter cette nomination au Conseil constitutionnel. C'est une surprise car même ses proches en politique l'ont appris par voie de presse hier. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Rosalie Lafarge a rencontré le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradier. Lui est plutôt proche de Laurent Wauquiez et il ne voit pas dans cette annonce une mauvaise nouvelle, bien au contraire.
C'est une manière de sortir d'une vie politique tumultueuse qui ne lui correspondait plus et de trouver un lieu plus serein, plus apaisé, d'avoir peut-être moins de travail, plus de temps pour réfléchir. Et puis la bonne nouvelle, c'est que en étant membre du Conseil constitutionnel, Alain Juppé va devoir être neutre dans le débat politique. portée. Vous voyez bien que depuis quelques semaines, il hésitait beaucoup entre un camp politique et un autre. Moi, j'étais assez peiné de le voir devenir un instrument politique pour Emmanuel Macron. Et je pense qu'il ne manquera pas terriblement à la vie politique de cette époque.
Et de sa famille politique. Il va lui manquer à sa famille politique ?
Des personnalités comme Alain Juppé manquent toujours à leur famille politique. Je pense qu'il nous manquera, moins que d'autres. Il ne fait pas bon vieillir en politique. C'est une leçon pour tout le monde. Ce que je dis n'est pas méchant, hein, mais je le pense vraiment. Qu'il est temps, quand on n'est plus dans son époque, de s'en sortir. Et c'est une manière de concevoir le nouveau monde. Emmanuel Macron nous avait expliqué que l'époque où on renvoyait l'ascenseur pour service rendu était finie, et je vois qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Les vieilles habitudes ont la peau dure.
Il est attendu à 11h tout à l'heure à la mairie de Gergilès-Dampierre avant de s'entretenir avec des maires de l'Indre et des chefs d'entreprise. Emmanuel Macron poursuit ses déplacements ce jeudi encore à l'occasion des grands débats nationaux. Un an de prison ferme aménageable. Christophe Détinger a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris pour s'en être pris début janvier à deux gendarmes en marge d'une mobilisation de gilets jaunes. Il a également l'interdiction de séjourner à Paris et de manifester pendant 6 mois. L'État français va débloquer 700 millions d'euros lors des 5 prochaines années pour soutenir le développement des batteries électriques de nouvelle génération. L'Élysée l'annonce et s'inscrit ainsi dans un projet franco-allemand, projet d'une production de batteries en Europe, sorte d'Airbus de la batterie. Le secteur actuellement est dominé par les acteurs asiatiques. D'Airbus, justement, le vrai, le constructeur aéronautique européen. Il en est question ce matin puisque l'on apprend que son A380, avion géant lancé dans les années 2000, que l'A380 ne sera plus produit ni livré à partir de 2021. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Hakim, cet appareil, vaisseau amiral du groupe peut-on dire, cet appareil était sous perfusion depuis des années.
Oui, ces dernières années, ses ventes restaient trop dépendantes de la compagnie Emirates, qui reste son premier client avec déjà plus de 100 appareils livrés. Mais paradoxalement, c'est cette même compagnie qui a signé la fin du Super Jumbo en un annulant récemment une commande de 39 A380. La compagnie de Dubaï a préféré la reconvertir avec des commandes d'A330neo et l'A350, des avions long courrier, plus petits mais moins gourmands en carburant, qui reste, faut-il le rappeler, le premier poste de dépense des compagnies aériennes. Il faut bien comprendre que l'A380, imaginé à la fin des années 90, est arrivé sur le marché trop tôt ou trop tard, c'est selon. Airbus et ses clients avaient fait le pari à l'époque qu'avec l'augmentation du trafic dans le monde, les aéroports seraient congestionnés, notamment en Asie. Sauf qu'entre-temps, les attentats du 11 septembre et surtout la crise économique de 2008 ont rebattu les cartes en vidant les avions, notamment de leur clientèle business, qui voyage en première classe et en classe affaires, les sièges les plus rémunérateurs dans un avion, Clara. Aujourd'hui, si le marché repart avec une croissance de 5% par an, les compagnies veulent des avions plus petits pour faire ce qu'on appelle du point-point, partir directement dans un aéroport et dans tous les pays, alors qu'avec la 380, qui est beaucoup trop gros, elles ne peuvent pas atterrir partout, ce qui nécessite une stratégie de hub, la politique qu'a notamment mise en place Emirates avec ses A380. Et aujourd'hui, il y a des avions qui consomment moins de carburant, par exemple le Boeing 777X qui va arriver sur le marché très vite, qui pourra transporter autant de passagers en consommant 25% de carburant en moins. Airbus indique que les 3500 personnes qui travaillent sur les chaînes de l'A380 ne seront pas licenciées, mais redéployées sur d'autres programmes comme l'A320 et l'A350, mais cela pour avoir des conséquences en termes d'emploi chez les sous-traitants de la 380.
Merci beaucoup Hakim Kasmi pour cette première nécrologie de la 380 ce matin. Penchons-nous à présent sur cette campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux, campagne inédite d'une diaspora trop souvent réduite au silence. Les Ouïghours, peuple turcophone et musulman qui habite en Asie centrale et surtout en Chine. La Chine où ils sont, selon les organisations des droits de l'homme, un million d'Ouïghours enfermés dans des centres de rééducation politique. Pékin a voulu prouver que l'un d'entre eux arrêté était encore en vie. Le gouvernement a pour cela diffusé une vidéo de cette personne. Mais dans la foulée, de très nombreuses familles l'ont interpellé pour avoir des nouvelles de tous leurs proches disparus. Leurs demandes sont sans équivoque, Dominique André.
La Chine, où est mon ami Parat? Montre-nous une vidéo. Où est ma sœur? J'ai 11 proches qui sont détenus. Prouvez qu'ils sont toujours vivants. Cher président Xi, libère mon grand-père. Depuis 24 heures, les messages de ce type s'accumulent sur les réseaux sociaux, accompagnés de photos. Tout est parti d'une vidéo diffusée par un média d'État chinois qui a voulu prouver que l'artiste ouïghour Abdourahim Eyit était bien en vie, contrairement aux déclarations de la Turquie qui affirmait que le poète et musicien était mort en détention. La stratégie de communication de la Chine se retourne donc contre elle. Les familles ouïghours veulent à leur tour des preuves de vie de leurs proches et pressent le gouvernement chinois de leur fournir des vidéos. La campagne « Moi aussi ouïghour » sur les réseaux sociaux prend de l'ampleur sur fond de tensions diplomatiques entre la Turquie et la Chine. Ankara a qualifié le traitement de la minorité ouïghour par la Chine de « honte pour l'humanité ». Pékin a protesté officiellement, mais la Chine nie toujours l'existence de camps évoquant des centres de formation professionnelle pour lutter contre la radicalisation islamiste. Mais nous n'avons pas pu les visiter. Le Xinjiang a une frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan. Pékin attribue les attentats fréquents dans cette zone à des séparatistes ou islamistes ouïghours. Face à cet emballement, la Chine appelle ses ressortissants à renforcer leur vigilance en Turquie.
Dominique André, notre correspondante à Pékin. Pour France Culture, ce jeudi sera une belle journée ensoleillée et douce en France. Comptez 3 degrés ce matin à Strasbourg, Lille et Lyon, 4 à Paris, 5 degrés à Nanterre et à Clermont-Ferrand, 11 degrés à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal, il est 8h16 sur France Culture.